IDFM Radio, le média valdoisien. Bonjour et bienvenue à l'économie en direct sur IDFM Radio, votre radio valdoisienne, en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'île de France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. La justice, pilier de notre démocratie, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Entre confiance citoyenne, modernisation technologique et défis sociétaux majeurs, comment les acteurs clés du système judiciaire perçoivent-ils ces enjeux ? Entre intelligence artificielle, violence conjugale et rôle des avocats dans la cité, explorons ce matin les mutations et les priorités de la justice en 2025. Aujourd'hui, vendredi 5 décembre, j'ai l'honneur de recevoir Annelise Vistup-Gilbert, bâtonnière de l'Ordre des avocats du Val d'Oise. Bonjour Madame la bâtonnière.
Bonjour Jacqueline.
Chère Annelise. Guirec Lebras, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise. Bonjour Monsieur le procureur.
Bonjour.
Vincent Reynaud, président du tribunal judiciaire de Pontoise. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour.
Merci à tous les trois pour votre présence chez IDFM Radio et bienvenue dans l'économie en direct.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Avant de démarrer notre débat, nous allons retrouver via le téléphone notre analyste géopolitique valdoisien, Gérard Vespierre, pour sa chronique « Décryptons le monde ». Bonjour Gérard.
Ah, bonjour Jacqueline, je salue également vos invités et toutes les personnes qui nous écoutent.
Gérard, ce matin, vous avez choisi d'analyser l'actualité très importante concernant les pourparlers de paix liés au conflit russo-ukrainien. Pour l'occasion, votre chronique s'intitule « Plan Trump pour l'Ukraine, commentaires et réalité ». Pourquoi cette différence entre commentaires et réalité ?
Pour être rapide, je préciserai que le commentaire concerne la surface des choses, l'émotion immédiate qui se dégage d'une décision ou d'un projet. Et l'analyse des réalités nécessite d'aller chercher les faits, donc des réalités qui expliquent en profondeur une décision ou un projet. Je vais vous donner immédiatement un premier exemple de cette différence. Dès l'envoi de ce plan de paix en 28 points à Kiev le 19 novembre, il lui a été donné le nom de plan Trump. En lui conférant cette appellation, on implique immédiatement qu'il est à la base de sa rédaction ou qu'il a ordonné les grandes lignes. Voilà ce que j'appelle un commentaire de surface, parce que la réalité est tout autre. Certes, vous avez eu des échanges téléphoniques entre le président Trump et Vladimir Poutine et leur rencontre en Alaska, mais cela ne constitue qu'une infime partie des contributions. Vous avez tout d'abord le travail de leurs envoyés spéciaux respectifs, Steve Witkoff et Kirill Dmitriev, et leurs très nombreuses rencontres. Puis, les échanges entre les ministres des Affaires étrangères, Marc Rubio et Serge Lavrov, et leur administration. Et enfin, la contribution peu visible, mais réelle, des représentants du ministère de la Défense américain, qui assurent le soutien militaire concret aux forces ukrainiennes depuis 46 mois. Donc ce plan devrait appeler en réalité proposition américaine, puisqu'il a été envoyé de Washington. La personnalisation n'est pas de mise, il est le fruit de l'administration américaine.
Alors certes, vous avez raison, mais est-ce que cette dénomination de plan Trump ne constitue-t-elle pas un simple raccourci de communication ? Vous connaissant, je devine que vous avez sûrement d'autres commentaires à formuler autour de ce thème.
Jacqueline, je n'ignore pas les nécessités d'efficacité de la communication des services de presse de la Maison-Blanche. Mais ce conflit relève d'une situation complexe et sa résolution met en œuvre une organisation fort large qui ne peut être réduite à un homme. De plus, oui, il y a beaucoup d'autres éléments à mettre en lumière. Tout d'abord, ce document a été présenté comme final. La Maison-Blanche a même exigé qu'il soit accepté dans sa totalité dès le 27 novembre au plus tard par l'Ukraine. Mais deux jours plus tard, on apprend qu'il représente une plateforme qui peut être amendée et les puissances européennes y participer. On aboutit même à l'organisation d'une rencontre à Genève entre l'administration américaine, une délégation ukrainienne et les responsables de la sécurité nationale de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, le 23 novembre. Oh, et ce cercle d'échange et de consultation s'élargit encore avec une réunion vidéo le 25 novembre du cercle des contributeurs, regroupant une trentaine de pays ayant décidé un soutien sécuritaire ou financier à l'Ukraine. Le plan américain présenté comme final et accepté tel quel est en réalité en train d'être amendé et ajusté.
On a pu penser qu'il était également présenté comme très favorable à Moscou. Alors, selon vous, est-ce nouveau, un commentaire de surface ou bien une vraie réalité?
Si reconnaître la réalité des positions militaires russes et favoriser la Russie, alors oui, le plan américain est favorable au Kremlin. Mais qui peut changer les positions militaires russes? Qui peut faire reculer les troupes russes? Personne. Alors ce n'est pas favorisé que de reconnaître une réalité qui ne peut être modifiée. Entre les lignes, il s'agirait de compenser la cession à Moscou de quelques petites parties de deux provinces, les oblasts de Lugansk et de Donetsk, Moscou pouvant faire de même dans deux autres provinces de Zaporijjia et de Kherson. Et peut-être faut-il aussi avoir un autre regard sur cette question de la relation avec la Russie en dehors de ce document.
Faut-il comprendre que tout n'est pas dit et fait dans ce cadre de, dans le cadre de ce plan de paix? Les États-Unis entreprennent-ils d'autres opérations vers la Russie en dehors de ce texte?
Jacqueline, très précisément oui. Tout d'abord, l'administration américaine vient de décider de prendre effective des décisions contre les deux, des sanctions contre les deux principales sociétés pétrolières russes, Rosneft et Lukoil. Elle vise à rendre très difficile les relations financières de ces deux entreprises avec les banques de leurs clients directs. Toute banque traitant effectivement avec Rosneft et Lukoil risque elle-même d'être mise sous sanctions américaines. Ni les banques chinoises, ni les banques indiennes impliquées dans les transactions pétrolières avec la Russie ne veulent se trouver dans cette situation. Elles ont commencé à se désengager. Cela va affecter le volume des exportations pétrolières russes, recette financière essentielle pour Moscou.
Cela, en effet, représente une pression très forte sur la Russie, alors que les États-Unis négocient en même temps avec elle. Y aurait-il d'autres dispositions pour amener la Russie à la table des négociations?
À nouveau, Jacqueline, un oui très ferme. Mais il faut que vous acceptiez un voyage de 7000 kilomètres et une rapide escapade vers les Caraïbes. Qui voyons-nous? Une escadre américaine au large des côtes de quel pays? Le Venezuela, le plus grand allié de la Russie dans la zone américaine. Le président Maduro est accusé par les États-Unis d'être à la tête du plus grand cartel de produits stupéfiants. Il affirme de son côté que Washington veut le renverser. Depuis des semaines, l'armée américaine détruit de petites embarcations transportant des stupéfiants et tuant leurs occupants. L'armée américaine semble se préparer à aller plus loin. À nouveau, une pression indirecte contre la Russie à travers son grand allié vénézuélien qu'elle ne peut protéger. Son seul et unique porte-avions de plus de 40 ans d'âge vient d'être retiré du service. Les États-Unis pourraient renverser ce régime. Les réalités du projet de paix américain pour l'Ukraine sont donc loin des commentaires et effets d'annonce. Ils se placent dans un cadre géopolitique américano-russe global.
Merci Gérard de nous avoir donné ce grand recul dont on n'entend pas trop parler dans les médias et expliquer la réalité de ce brûlant dossier ukrainien. Chères auditrices, auditeurs, ainsi se termine notre rubrique géopolitique Décryptons le monde. Retrouvez tous les écrits et interventions médias de Gérard Vespierre sur son site www.lemondedécrypté.com. L'abonnement y est gratuit. Merci Gérard, à bientôt pour d'autres éclairages sur le monde géopolitique.
À bientôt, Jacqueline. Merci.
Merci. En hommage à Jimmy Clift, décédé le 24 novembre, on écoute Mélodie Tempo en duo avec Bernard Lavillier. avant de poursuivre dans quelques instants. À tout de suite.
Ses doigts longs et rapides couraient sur sa guitare. Ses riffs comme des fluides transperçaient le brouillard. Puis la lumière dorée du soleil de Négri planait sur la fumée en petites notes agiles. Ses textes étaient précis et bourrés d'humour noir. C'était donc mon ami depuis ce fameux soir. J'étais noir moi aussi, mais pour d'autres raisons. J'avais passé 10 ans à dormir en prison. C'était une drôle d'affaire pleine de coups d'escopette, de transporteurs de fond et puis de grosses galettes.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Quand la justice s'invite dans le débat public, hein, c'est souvent grâce à ceux qui en défendent les valeurs au quotidien. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission dans laquelle je reçois ce matin Annelise Wistup-Gilbert, bâtonnière de l'Ordre des avocats du Val-d'Oise, Guirec Lebras, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, Vincent Reynaud, président du tribunal judiciaire de Pontoise. Annelise, je suis ravie de vous accueillir déjà en tant que partenaire de notre média à travers le barreau du Val-d'Oise. Et merci d'avoir été l'initiatrice de la venue de deux acteurs clés du système judiciaire de Pontoise, tels que messieurs Reynaud et Lebras. Alors Annelise, bien que j'ai eu le plaisir de vous recevoir, quelques mots peut-être de rappel sur votre parcours et puis votre engagement pour le barreau du Val-d'Oise et puis les raisons qui vous ont poussé à réunir le président et le procureur du tribunal judiciaire de Pontoise.
Oui, alors pour rappeler rapidement moi mon parcours, donc j'ai prêté serment en 2007, donc ça fait 18 ans aujourd'hui que je suis avocat. Je suis rentrée au Conseil de l'Ordre en 2018 parce que au bout effectivement d'une dizaine d'années, l'envie de faire un peu un pas de côté et de comprendre un petit peu les mécanismes et les choses dont on a tendance à se plaindre au quotidien et de se dire bah si je passais un petit peu de l'autre côté, voir ce que je peux moi améliorer. Et ça m'a plu énormément et voilà, de fil en aiguille, j'ai été renouvelée d'abord au Conseil de l'Ordre, j'y suis restée 6 ans et j'ai fini par être élue bâtonnière donc l'année dernière avec un début de mandat depuis le 1er janvier 2025 et c'est un mandat donc de 2 ans sur 2025-2026. Et pour l'émission d'aujourd'hui, ben je vous remercie surtout de nous recevoir tous les trois parce que c'est aussi l'occasion de donner un petit peu une autre image de la justice parce que on a, je pense beaucoup les uns et les autres, énormément de frustration. Oui. Par rapport à l'image qui est donnée en règle générale dans la justice et je pense que c'est important d'avoir l'occasion de communiquer, de donner un petit peu aussi notre point de vue et notre ressenti de l'intérieur plutôt que ce rouleau compresseur des médias qui a tendance un petit peu ces derniers mois à s'acharner sur la justice et en règle générale en période électorale.
Voilà, encore plus que d'habitude.
On
est d'accord. Alors quels sont les défis communs que vous souhaitez aborder dans cette émission?
Les défis communs entre avec la juridiction,
oui,
alors
oui.
L'image de la justice, très très clairement, l'image de la justice fait partie des choses sur lesquelles il faut avancer. Alors nous, au niveau du barreau, on avance, on essaye d'avancer sur ce point au niveau local, c'est-à-dire de se dire que le mieux, c'est d'apporter des bulles de conversation avec les justiciables au quotidien, d'organiser des rencontres, alors que ce soit des rencontres en partenariat avec les juridictions, avec l'université ou avec des partenaires extérieurs, donc avec la radio, avec les cinémas. Mais le but, c'est d'avoir comme ça des occasions de pouvoir discuter, confronter les points de vue, expliciter les difficultés rencontrées et les marges de manœuvre que nous avons pour améliorer la situation. Ça, je pense que ça fait partie notamment des projets communs et des choses que nous partageons tous les trois.
Je m'adresse à vous, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur. Votre sentiment par rapport à ces souhaits de Madame la Bâtonnière, Monsieur le Président?
C'est vrai qu'il y a un enjeu fort pour nous de confiance dans la justice. Et donc l'image que véhicule l'institution judiciaire de façon globale est effectivement souvent très biaisée par le traitement de l'actualité et le prisme de la justice est souvent vu au travers de ses dysfonctionnements et aussi de travers quelques affaires médiatiques dont tout le monde parle. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vous en parlerai pas, parce que c'est justement une autre image de la justice qu'on veut donner, celle du quotidien des Français et des citoyens. Et c'est vrai que moi, j'ai un vrai sujet sur la confiance. Pourquoi? Parce que une étude est sortie récemment. Le ministère de la Justice, vous savez, a des services, supports qui analysent aussi la façon dont est perçue la justice. Et le secrétariat général du ministère, dans un document qui s'appelle Infostat, a sorti une étude sur la perception de la justice dans la société. C'est très intéressant, même si les résultats ne nous satisfont pas véritablement en tant que chef d'une grosse juridiction. Mais c'est très intéressant parce qu'elle dit ce qui est perçu, ce qui est par d'ailleurs, ces perceptions sont parfois fausses, objectivement fausses.
Oui.
Mais pour autant, c'est comme tel que la justice est perçue. J'en donne juste quelques éléments pour situer les enjeux du débat. Donc 49% des personnes qui résident en France, seulement 49 disent avoir confiance dans la justice. On pourrait se dire c'est 1 sur 2, c'est pas si mal, mais c'est en dessous de toutes les autres administrations. Et sur le ton de la plaisanterie, je dirais qu'on est même derrière l'éducation nationale. C'est pas peu dire. Donc cette perception est pas bonne. Et moi, ce qui m'interroge beaucoup en tant que président du tribunal, où on organise la justice sur un ressort très peuplé, avec des enjeux, on en reparlera, nombreux, tant sur le plan de la délinquance, mais aussi de la justice civile. Ce qui me frappe le plus, c'est de voir que pour 86% des Français, la justice est jugée trop lente. Mmh. Pour 74%, elle est jugée trop chère. Ce qui est faux, mais elle est jugée trop chère. Peu compréhensible, 78%. C'est un peu vrai. Pas assez sévère, 68%, et inégal dans une proportion aussi importante. Vous voyez, donc tous ces constats, je crois qu'ils sont aussi pour nous finalement les lignes de notre plan d'action. Il nous faut soit démentir, et c'est aussi l'objet, je vous remercie de votre invitation, Madame la Bâtonnière, de sa démarche, parce que ça nous permet aussi de mieux faire connaître la justice. Et en la faisant mieux connaître, on peut déjà lutter contre une certaine partie de ces appréciations qui, je vous dis, parfois sont objectivement fausses, comme la cherté. La justice, j'invite nos concitoyens à voir ce qui se passe dans les autres pays européens. Ils s'aperçoivent que la justice française n'est pas si chère que cela. Mais pour autant, il y a aussi des constats qui sont réels et il nous faut améliorer certaines choses.
Alors, moi, en préparant le dossier, je suis allée aussi faire des recherches. Donc, c'est vrai que vous donnez les résultats de ces stats, mais j'ai lu que quand on interviewe des personnes isolées, en particulier, finalement, elles sont pas si mécontentes de la justice. C'est là où il y a un delta. J'ai pu lire que ces personnes trouvent qu'elles ont été bien reçues, qu'il y a une écoute bienveillante. Enfin voilà, il y a plein de choses positives. Donc comment arriver aussi à renverser ce sentiment que auprès des médias?
Vous avez raison, parce que là j'ai donné que les grandes tendances de cette étude qui est quand même assez touffue, mais dans l'analyse détaillée, il apparaît qu'effectivement les gens qui eux ont été confrontés en réel à la justice, parce que cette perception que je viens d'évoquer, c'est la perception des Français, y compris ceux qui n'ont jamais mis les pieds devant un tribunal, et tant mieux pour eux. Et donc c'est la perception de l'ensemble des Français. Donc on voit bien que cette perception, elle est aussi construite sur un bruit médiatique, sur une image, sur des choses qui sont pas forcément...
On a envie de faire le buzz.
Voilà, qui sont pas assises sur du réel. Ouais. Mais effectivement, quand les gens... Parmi ceux qui ont répondu et qui ont été vraiment confrontés, qui ont vu un juge, qui ont vu un avocat, qui ont vu un procureur à l'audience, alors s'il n'y a pas un renversement complet, mais en tout cas, la perception est plus du tout la
même. Différente, oui. Monsieur le procureur.
Oui. En complément de ce qui vient d'être dit par Monsieur le Président, en fait, la justice est rendue publiquement et finalement, elle n'est pas connue malgré cette publicité. Mmh. C'était un des acquis révolutionnaires, la publicité de la justice pour que les droits, la manière dont elle fonctionne puissent être connus de tous et éviter l'arbitraire. Et finalement, la publicité, elle ne marche pas dans son expression quotidienne. Donc l'idée, pour moi, en venant auprès de vous, et en venant dans cette émission, c'est aussi, comme le dit Monsieur le Président, d'expliquer comment nous fonctionnons, d'expliquer quel est le cadre de notre intervention, aussi nos contraintes, et pour un procureur, ne pas réduire sa parole simplement à l'événement, c'est-à-dire la prise de parole du procureur lorsqu'il y a une affaire qui intervient. Et venir expliquer le quotidien d'une justice... dans sa complexité, que ce soit en matière pénale, en matière civile, peut-être plus en matière civile, parce que la matière pénale est celle qui focalise toute l'attention au travers de quelques affaires, parfois de faits divers, parfois d'une autre nature. Et donc, c'est aller vers ce qui était mis en avant il y a quelques années, c'était de dire une justice de proximité, donc de présenter cette justice, parce que dans le quotidien, le tribunal de Pontoise, par exemple, en matière pénale, c'est 80 000 affaires. Or, je pense que si je reprenais toutes les unes d'actualité de la presse locale, elle se réduirait l'année judiciaire de Pontoise à 100 affaires. Or, pourtant, il y en a 80 000, même si toutes ne sont pas jugées, et je m'en expliquerai, il y en a 80 000 chaque année. Donc, c'est ce quotidien qu'il nous faut expliquer au-delà de l'événementiel.
Et peut-être inviter plus de journalistes à venir participer à vos débats, justement, pour essayer d'inverser la tendance.
Alors, avec Monsieur le Président, c'est tout ce qu'on souhaite mettre en place, c'est une communication de divers ordres pour effectivement que la juridiction aille vers l'extérieur, accueillir des personnes, nous aller vers des médias locaux pour faire ce travail d'explication et de pédagogie.
Merci, Monsieur le Procureur. Je propose qu'on fasse une pause avec Laurent Voulzy et son titre Désir, désir, et on se retrouve juste après.
cette situation. Mon deuxième du plaisir, mon troisième c'est souffrir, oh, oh, oh. Et mon tout fait des souvenirs. Son deuxième du plaisir, son troisième c'est souffrir, oh, oh, oh. Et son tout fait des souvenirs.
IDFM 98FM.
Nous voilà de retour sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct et je suis ravie de vous retrouver pour la suite de cette émission en compagnie de Anne-Lise Wistup-Gilbert, bâtonnière de l'Ordre des avocats du Val d'Oise, Vincent Reynaud, président du tribunal judiciaire de Pontoise, et Guirec Lebras, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise. Alors Anne-Lise, également peut-être quelques mots sur ce rôle de bâtonnière qui est bien défini.
Oui, alors effectivement, les gens connaissent pas forcément le rôle du bâtonnier et c'est un terme qui n'est pas forcément très connu. Concrètement, je suis élue par mes pairs pour les représenter. Ça, c'est le poste officiel, c'est la représentation. Donc la représentation auprès des autres bâtonniers, auprès des juridictions, auprès des partenaires. Ça, et je préside un conseil de l'ordre. Donc nous, on est 501 avocat en exercice, oui, sur le barreau du Val d'Oise depuis hier.
Bravo.
On a notre 500e qui a prêté serment hier et 550 avocats en tout, puisqu'il y a aussi les avocats honoraires, donc qui gardent le titre mais qui n'exercent plus. Et donc outre représenter ces 550 personnes, on est là aussi pour gérer un petit peu leur quotidien professionnel, c'est-à-dire prendre les décisions, organiser le quotidien, organiser les permanences, organiser les rapports avec la juridiction, les commissions d'office, tout ce qui va être aussi disciplinaire, donc les plaintes des justiciables à l'encontre d'avocats, les plaintes entre avocats, les plaintes juridiction-avocat aussi. Donc ça, ça effectivement... un certain nombre de décisions à prendre dans la journée. Donc voilà. Et à côté de ça, il y a aussi tout l'aspect un peu national. C'est-à-dire que le bâtonnier, comme il représente son barreau, on est donc 164 bâtonniers en France, quand on prend tous les ressorts. Et donc on se réunit régulièrement aussi pour faire avancer les sujets, avancer la profession. Donc voilà, il y a un petit peu différentes casquettes. On passe de l'une à l'autre en permanence.
Alors, en tant que bâtonnière, vous incarnez une profession souvent perçue comme un pont hein, entre les citoyens et les institutions. Comment votre barreau s'y prend-il pour rendre la justice plus accessible et plus humaine ? C'était un petit peu le sujet de la première question.
Oui, alors, le but, je pense, c'est de penser local. C'est-à-dire que concrètement, nous, on est un barreau qui correspond à un département, hein, donc le Val-d'Oise. Et le but, c'est de faire en sorte de la rendre accessible et de communiquer le plus directement possible. C'est-à-dire que tout à l'heure, effectivement, on parlait des médias qui peuvent effectivement venir dans les salles d'audience pour après rendre compte. Moi, je pense que le mieux, c'est pas tant les médias, mais c'est que les justiciables viennent directement voir des audiences. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'intermédiaires. Et je pense que on a tout à gagner à enlever un maximum d'intermédiaires et à agir directement, d'où l'intérêt de la proximité. C'est-à-dire que les avocats vont venir parler directement, essayer d'expliquer la justice, tout comme monsieur le procureur, monsieur le président. Le but, c'est ça, c'est de trouver des instants d'échange, mais direct. Plus il y a d'intermédiaires, plus il y aura d'interprétations ou de volontés qui peuvent être des volontés politiques. On parlait tout à l'heure des périodes électorales. Enfin, éviter au maximum les intermédiaires. Exactement. Et donc nous, au niveau local, on essaye d'être le plus présent possible. Donc il y a beaucoup de permanences, par exemple, qui sont organisées, que ce soit dans des maisons de justice, que ce soit au niveau des mairies, que ce soit des points d'accès au droit, pour justement aller à la rencontre des justiciables. Ce sont des consultations qui sont gratuites, qui permettent d'aiguiller, qui permettent d'expliciter. Donc il ne faut pas hésiter à se rendre sur le site des avocats du Val-d'Oise. On a toutes les dates qui sont répertoriées, que ce soit pour les particuliers, pour les entreprises. Enfin voilà, on essaye vraiment de pouvoir répondre à l'ensemble des justiciables et l'ensemble du ressort du Val-d'Oise.
La dernière fois que vous êtes venu, on avait évoqué vos confrères qui se sentent parfois seuls. Vous êtes toujours dans cette dynamique aussi ?
On est toujours dans cette dynamique, mais je pense que ça ne concerne pas que les avocats. Je pense que c'est vraiment l'évolution actuelle de la société et le fait que... on soit de plus en plus dans une logique d'auto-entrepreneuriat. Donc les avocats sont de plus en plus chacun de leur côté et ça fait partie aussi du rôle de l'Ordre des avocats du Val-d'Oise d'essayer de rassembler, de rappeler l'ordinalité, de rappeler la confraternité et le fait que tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin.
Bien sûr.
Et que donc on a tout intérêt à rester ensemble, groupés avec une vraie cohésion, une vraie confraternité, une vraie entraide pour pouvoir travailler au mieux, ne serait-ce que voilà, pour que chacun puisse être épanoui dans sa profession et puis pour être le plus cohérent possible par rapport aux justiciables et vis-à-vis de la juridiction.
Merci Anne-Lise. Alors le ministre de la Justice Gérald Darmanin, c'est un peu mélangé, mais bon, a récemment annoncé que l'introduction de l'IA pour analyser les jurisprudences. Vous, en tant qu'avocate, quelles sont vos craintes ou vos espoirs face à cette évolution ?
Oui, crainte et espoir. Ouais, c'est assez bien résumé. Je pense qu'effectivement, on a effectivement les deux pans de la question. Un espoir parce que c'est comme il y a 25 ans, l'arrivée d'Internet, la démocratisation d'Internet nous a apporté beaucoup de facilité, beaucoup de simplification au quotidien, des réponses beaucoup plus rapides. Et ça, je pense que l'IA va nous apporter effectivement plus de vitesse, plus de rapidité.
Oui, pour les tâches répétitives.
Pour certaines tâches. En contrepartie, effectivement, ça va être énormément d'éducation derrière pour apprendre à le gérer et apprendre à utiliser l'IA sans prendre pour argent comptant ce que l'IA nous nous donne. Parce que, enfin, on a vu aux États-Unis un avocat qui a utilisé une décision de jurisprudence qui n'existait pas, par
qui
exemple.
Qui a été radié, je crois.
Voilà. Donc c'est effectivement important de d'apprendre ces outils. Donc nous, par exemple, sur le barreau du Val d'Oise, on a tous les ans, au moins une fois par an, là cette année même deux fois, des formations sur l'IA avec directement les producteurs d'IA, donc juridiques et judiciaires, qui viennent nous apprendre, nous expliquer les erreurs à ne pas commettre, nous expliquer toutes les vérifications nécessaires pour qu'on puisse l'utiliser correctement. Et ça, voilà, ça va être le travail de l'ordre de former les confrères et après de signer éventuellement des partenariats pour faire en sorte que qu'un maximum d'avocats puissent avoir accès à ces nouveaux outils qui sont les outils de demain, incontestablement. Donc on peut pas faire sans.
On pourra pas échapper.
Donc de toute façon, il va falloir faire avec et trouver le moyen, voilà, de démocratiser au maximum auprès des 500 confrères cet outil.
Et peut-être même légiférer en allant plus loin. Enfin, Monsieur le Président, vous voulez intervenir?
Ah, mais sur l'IA, c'est un sujet d'importance qui nous concerne tous. La question n'est pas de savoir si nous allons utiliser l'IA. Nous sommes dans l'IA.
On l'utilise déjà.
L'IA, c'est aujourd'hui. Je crois que tout l'enjeu, et d'ailleurs, c'est un peu d'actualité parce qu'il y a quelques jours, le ministre a annoncé un plan de déploiement d'un outil test au sein du ministère de la Justice pour commencer à utiliser cet outil. Donc pour l'instant, on en est encore au début, parce qu'il y a aussi des enjeux de souveraineté, que les données ne partent pas partout. Donc c'est pour ça qu'il nous faut aussi un outil maison. Mais on est déjà dans cette réalité. Je le dis, je vise pas les avocats du Val d'Oise, mais peut-être d'autres avocats. Mais nous voyons déjà le recours à l'IA dans certaines écritures, et notamment dans certains contentieux assez spécifiques. Donc c'est pas forcément justement les avocats généralistes, mais on voit déjà le recours à l'IA. Donc il faut que nous, justice, nous prenions le train, parce que sur les nouvelles technologies, vous savez que le ministère de la Justice a parfois été en retard, et avec le procureur, nous sommes très en avant sur ces sujets-là, parce que la modernisation fait partie aussi de la réponse en termes d'accessibilité, de communication, et je crois que si les justiciables peuvent trouver des informations fiables, simples, sur des outils, ils seront preneurs, tout en veillant aussi à ceux qui n'auront pas accès à ces outils, parce que on est très soucieux aussi dans le cadre de l'accès au droit aux questions de fracture numérique. Vous savez que toute une population est un petit peu dans cette situation. Mais en tout cas, l'IA, c'est un enjeu aussi pour les juges, puisque en tant que président du tribunal, je suis en quelque sorte un peu le chef des juges du tribunal de Pontoise. Et c'est vrai que c'est une question qu'on évoque souvent avec les collègues, puisque moi-même, tant président, je suis aussi magistrat et j'ai eu des activités juridictionnelles. Et j'en ai encore quelques-unes. Et dans notre travail, l'IA peut aussi être un vecteur de facilitation. Nous faisons des choses très complexes, mais aussi très simples et répétitives. C'est vrai qu'en tant que administrateur d'une juridiction, je suis assez intéressé aussi par l'idée de pouvoir davantage concentrer les juges sur des tâches complexes, des tâches qui nécessitent l'intervention du juge, que sur parfois ce qui est du traitement de texte amélioré. Donc on a cet enjeu-là aussi pour la justice.
Et peut-être justement intervenir dans cette fameuse lenteur que l'on décrit pour la justice.
Alors c'est certain que dans un monde idéal, si ça peut nous faire gagner. Alors si les magistrats m'entendent, ils vont sans doute m'entendre parce que c'est une radio. Mais ça nous pouvait faire des gains de productivité. Évidemment, ce serait magnifique. Ils détestent ce mot, les magistrats. Mais bon, ils m'auront compris. Je leur ai déjà dit. Évidemment qu'on peut être plus efficace, plus efficient, et si les outils nous le permettent, les juges, ils ont le souci. Moi, je le vois au quotidien, de rendre une bonne justice. Et la bonne justice, c'est dans une affaire, de juges d'affaires familiales, de pouvoir laisser le temps suffisant aux parties de s'expliquer. Par exemple, devant un tribunal correctionnel, de laisser le temps au procès de se dérouler. Donc il y a des tâches un peu incompressibles, et si on veut pouvoir ne pas être sous la pression parce que le temps dans tous les domaines est un enjeu, mais nous le temps c'est la question des délais, vous l'avez dit, la lenteur de la justice telle qu'elle est perçue et telle qu'elle est réelle en tout cas dans certains domaines. Si nous pouvons mieux utiliser ce temps en s'épargnant des tâches parfois très répétitives, évidemment ce sera très intéressant. On a un enjeu presque comme dans toutes les structures privées avec ce sujet-là. On a aussi un enjeu de nos métiers, de l'exercice de nos métiers. On a des assistants autour des magistrats qui font justement parfois de ces tâches répétitives. Donc il va aussi falloir repenser les métiers pour dire voilà qui fait quoi, comment on utilise au mieux. Donc pour l'instant on est dans l'étude d'un outil et on va le tester, voir ce que ça peut nous apporter. Et pour l'instant, c'est pas du tout sur les décisions, c'est plutôt sur des synthèses, sur voilà des outils facilitants. Mais je crois qu'il faut pas refuser l'obstacle. Il faut y aller, simplement en faire le meilleur usage.
Oui, le meilleur usage. Monsieur le procureur, votre sentiment sur l'IA?
Plusieurs idées. La première, c'est que la justice, c'est à la fois l'écrit et la parole.
Oui.
Donc c'est l'écrit, et sur l'écrit, effectivement, l'IA pourra être, comme le disait Monsieur le Président, un outil qui nous permettra peut-être d'aller un peu plus vite sur la production d'écrits qu'ils émanent du parquet ou des magistrats du siège, pour faire le travail de synthèse ou de mise en perspective des arguments des parties dans un procès. Et là, oui, il peut y avoir des gains qu'on qualifiera, entre guillemets, de productivité, avec toute la réserve qu'on mettra dans notre profession sur ce terme. Mais après, il reste l'audience. Et l'audience, toute IA qu'on pourra y mettre, le temps ne se réduira pas. L'attention apportée au débat judiciaire, qui est un principe fondamental avec le respect du contradictoire, la parole donnée à chacun, restera. Donc, c'est un outil, effectivement, sur lequel il faut qu'on travaille. Et au sein du ministère de la Justice, il y a toute une réflexion qui est menée par rapport aux enjeux, comme le disait Monsieur le Président, de souveraineté, parce qu'une procédure pénale est une procédure par nature dont les pièces restent couvertes par le secret de l'enquête.
Oui, la confidentialité.
Voilà,
oui.
Et les données ne peuvent pas être mises dans donc un outil qui pourrait les mettre sur la place publique dans une espèce de, en plus de place dont on ne connaît pas les contours. Donc il y a ce travail, et ce travail se nourrit de toute l'évolution que la justice souhaite incarner depuis un certain nombre d'années sur l'utilisation. Alors on n'est plus dans l'IA, mais on est dans une première phase des outils de numérisation des procédures pénales qui favoriseront ensuite le travail de l'IA, puisque dès lors qu'on dématérialise les procédures, on peut mieux les intégrer dans d'autres outils d'analyse. Donc c'est un vrai travail. C'est un travail qui est attendu par un certain nombre de magistrats, d'une certaine manière. Là, pour le coup, il y a une forme d'adhésion, parce que je pense que tout le monde a vu le gain ou qui peut être apporté.
Le progrès, oui.
Voilà, à chacun dans ses pratiques professionnelles. Après, il y a tout le débat qui est d'un autre ordre. Est-ce que le juge sera remplacé par l'IA? Mais c'est pas ce qui est envisagé actuellement. Ce qui est envisagé surtout, c'est un outil d'aide, non pas tant à la prise de décision dans un premier temps que au travail du quotidien de rédaction. Mais on voit bien que l'IA peut produire tellement de choses que peut-être qu'il y a des outils aussi qu'aujourd'hui on n'identifie pas qui pourront nous aider à traiter un certain nombre de choses. Voilà. Donc je pense qu'il faut garder à l'esprit que c'est un outil, c'est pas une fin en soi, et que il faut avoir cette réflexion sur l'outil, comment l'utiliser, tout en conservant nos principes généraux auxquels il faut que la justice soit attentive, et comme je l'indiquais tout à l'heure, à la fois le contradictoire, puisque c'est un principe, mais aussi l'attention portée, puisque c'était un peu le débat que nous avions sur le rapport du justiciable avec la justice. Il faudrait pas qu'on arrive, au travers de l'utilisation des outils, à revenir à cette forme d'incompréhension que pourraient avoir les justiciables en se disant, tiens, finalement, j'ai face à moi une forme de robot.
Oui, oui, voilà. Un standard.
Voilà. Après, il y aura de notre part à être attentif, parce qu'on va voir aussi se développer des justiciables qui vont utiliser l'IA pour saisir la justice. Mm-hmm. Voilà. Donc oui. C'est un rapport complexe dans toutes les phases, donc de la production judiciaire, donc de l'accueil du justiciable, de son et aussi de la manière dont nous rendrons nos décisions.
Vous avez raison de souligner cette complexité, mais aussi de dire que l'humain restera quand même au centre de cette juridiction, enfin de vos structures. Anne-Lise, alors vous avez des actualités à nous annoncer. Déjà, nous parler des. Vous avez mis en place des consultations gratuites aux entreprises et aux particuliers. Oui. Il y a tout un calendrier qui existe toujours.
Qui existe toujours. Alors c'est pas moi qui l'ai mis en place. Oui. Ça existe depuis des années. On continue à le développer au fur d'accord. et à mesure. Mais voilà, ça existe depuis un certain temps et on continue de multiplier les partenariats aux quatre coins du Val d'Oise pour faire en sorte justement de pouvoir être accessible à tout le monde. Et d'être en proximité au maximum. Donc on a des points d'accès au droit jusqu'à Magny-en-Vexin pour être dans le Vexin. On a nord, sud, est, ouest. Enfin, on essaye vraiment de se déplacer partout et c'est l'avantage aussi. On est 500 avocats en exercice. Il y en a un peu partout des avocats. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a une grosse partie sur Pontoise parce que c'est là où se trouve le tribunal. Mais on en a un peu partout. Et chacun a ses spécificités. On a une partie de généraliste mais une partie qui travaille plus spécifiquement, que ce soit en droit du travail, que ce soit en droit des étrangers. Et donc, on a créé aussi des consultations spécifiques pour certaines matières. Donc, pour les victimes, pour les étrangers, en droit social et pour les entreprises de la même façon, où on a donc quatre partenariats sur les quatre points du Val d'Oise pour pouvoir rencontrer des chefs d'entreprise sur des difficultés spécifiques sur le ressort et pour pouvoir... Alors, pas forcément, puisque ce sont des consultations gratuites, résoudre la difficulté, oui, mais en tout cas, aiguiller, expliciter et donner une image claire.
Lancer des pistes, oui.
Voilà, exactement. Le principe, c'est ça. C'est pour ça que c'est des consultations gratuites. Le but, c'est de faire venir, qui est le premier pas qui soit fait vers un avocat et de montrer que l'avocat est justement là pour traduire un petit peu des choses qui sont pas forcément évidentes, expliciter vers quoi on va pouvoir se diriger, les possibilités d'amiable, les possibilités de contentieux, les possibilités d'arbitrage en fonction. Et donc voilà, nous on va pouvoir expliquer comment ça fonctionne pour après donner les clés aux personnes qui viennent nous rencontrer, les clés de ce qu'ils vont pouvoir faire après de leurs difficultés. Donc toutes ces consultations, toutes les dates, tous les horaires sont accessibles, hein, une fois de plus, sur le site des avocats.
J'allais vous poser la question pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Il suffit d'aller sur le site
avocat95.fr, donc avocat-95.fr, et vous avez sur un onglet, je crois qu'il y a un onglet directement consultation, et avec toute la liste, en fait, donc premier mardi du mois, deuxième mardi du mois, avec les horaires et tous les lieux, avec tous les thèmes. Donc après, il y a juste à téléphoner, les coordonnées sont indiquées pour prendre rendez-vous et qu'un avocat puisse vous répondre.
Merci pour ces précisions, Anne-Lise. Vous avez évoqué le cinéma Utopia.
Oui.
Donc, vous avez un partenariat avec ce cinéma. Il y a une prochaine soirée débat prochainement.
Alors là, avec les périodes de fêtes de fin d'année, on n'a pas de date. Là, on va avoir une date probablement en janvier. Mais ça, effectivement, c'est un partenariat que j'ai mis en place au début de mon bâtonnat. Bah, toujours sur le même thème dont on parlait tout à l'heure, d'essayer d'avoir des bulles de communication avec les justiciables directement. Donc, tous les mois et demi à peu près, on fait une séance de ciné-débat donc en partenariat avec l'Utopia Pontoise-Saint-Olomone. Donc, les deux salles sont liées et tantôt... généralement à Saint-Olomone, parfois à Pontoise, et pour aborder les thèmes d'actualité en fonction des films qui sortent. Donc là, on a déjà fait 4. On aborde différents thèmes, que ce soit la question des violences intrafamiliales, que ce soit la question des mineurs, des difficultés de l'assistance éducative, des placements, que ce soit la question des stupéfiants. Enfin voilà, on essaye à chaque fois d'aborder un thème, et donc en fonction des sorties cinématographiques. Et une fois que le film a été diffusé, on a souvent 1, 2, 3 partenaires, donc des fois des juges. On a eu la dernière fois monsieur le juge Durand, juge des enfants, qui est venu intervenir à notre dernière session là début novembre, pour pouvoir après, et avocats et magistrats et éventuellement donc des éducateurs en fonction des thèmes, discuter avec le public qui est venu à la séance et faire un débat un petit peu sur ces sujets d'actualité. Et ça, je trouve que c'est vraiment riche et
oui,
important.
C'est incontournable, hein, c'est devenu incontournable. Merci beaucoup, Anne-Lise. Merci pour votre engagement sans faille, hein, en faveur d'une justice plus proche des situations et des citoyens, pardon. Votre initiative aujourd'hui en est une belle illustration. Et nous sommes ravis de vous compter encore une fois comme partenaire pour porter ces débats essentiels. Je propose une nouvelle pause en compagnie d'Adèle et Rolling in the Deep. Hein, et on se retrouve juste après.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of. It's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep.
IDFM Radio.
C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio avec à mes côtés Anne-Lise Vistup-Gilbert, bâtonnière de l'Ordre des avocats du Val d'Oise, Monsieur Vincent Reynaud, président du tribunal judiciaire de Pontoise et Monsieur Guirec Lebras, procureur de la République au tribunal judiciaire de Pontoise. Alors, Monsieur le Président, vous nous avez déjà donné votre sentiment sur la confiance et puis l'IA. Peut-être, est-ce qu'on peut juste partager un aperçu de votre parcours professionnel?
Alors, D'une part, je suis magistrat. Hein, j'insiste parce que c'est le président du tribunal est un magistrat. Mmh. Donc ma carrière est finalement celle d'un magistrat classique. Après des études de droit, j'ai fait l'École nationale de la magistrature, hein, qui est une école, comme son nom l'indique, nationale et unique pour se former au métier de magistrat. J'ai exercé dans des fonctions diverses. Alors à l'époque, on les appelait les juges d'instance. Maintenant, ce sont les juges des contentieux de la protection. Ça contribue peut-être un peu à la complexité pour nos citoyens qui ont parfois du mal à identifier même leurs juges dans leurs appellations. J'ai été substitut du procureur dans un ressort pas très éloigné à Nanterre. Et puis après, j'ai eu une partie, et c'est ce qui m'a conduit à exercer après les fonctions de président, une carrière à Paris, au tribunal de grande instance à l'époque de Paris, à la cour d'appel, où j'étais secrétaire général du président et du premier président, donc dans des fonctions qui se rapprochaient un peu de ce que je fais maintenant, qui sont des fonctions plus d'organisation, d'administration de la justice. Et donc depuis 2014, je suis président de tribunal. J'ai exercé ces fonctions dans des ressorts très variés, très divers, de la Bretagne à Saint-Malo, c'était mon premier poste de président, en passant par Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, dans un grand département frontalier. Et voilà, et donc depuis 2024, président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Je crois que les tribunaux ont un classement. Quel est celui du tribunal judiciaire de Pontoise?
Alors ça se joue entre 11 et 12 selon les sources.
C'est très important.
Monsieur le procureur aime à dire que nous sommes sur 164.
Oui, quand même.
Voilà, sur 164. Non, mais alors, vous savez, les tribunaux sont classés en fait en quatre groupes grandes, qui permettent de comparer leur activité, parce qu'évidemment vous n'allez pas comparer tribunal de Privas avec le tribunal de Paris. Les contentieux sont pas les mêmes, et donc on a besoin un peu d'une forme de classification, comme en matière économique où on va distinguer, on a plus de 500 ou moins de 500 salariés. Là c'est la même chose dans la justice, donc vous avez quatre groupes de juridiction, de la plus les plus gros étant groupe 1 et les plus petits groupe 4, et donc Pontoise est dans le groupe 1. Et donc je vous dis 11 ou 12 selon les sources. On se bat avec nos amis versaillais sur cette place. Voilà, donc c'est un tribunal d'importance, parce que je le dis aussi pour nos auditeurs qui se rendent compte, c'est 75 magistrats au siège, donc les juges pour simplifier. 31 magistrats du parquet, donc les substituts vice-procureurs qui sont sous l'autorité de monsieur le procureur, et puis c'est plus de 300 fonctionnaires contractuels, donc les agents de greffe, les attachés de justice, les agents administratifs, etc., qui sont eux sous la responsabilité d'une directrice de greffe. Donc c'est une grosse PME.
Oui,
c'est une grosse machine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec le procureur, nous exerçons plus beaucoup d'activités juridictionnelles et nous mettons notre robe qu'avec parcimonie. Même si moi, il m'est arrivé la semaine dernière encore de présider une audience de référé, mais c'est de plus en plus rare parce que nous sommes pleinement mobilisés sur l'organisation du tribunal.
Vous êtes des dirigeants, en fait.
Exactement.
De l'entreprise.
Avec le souci, encore une fois, de répondre à ses besoins, améliorer les processus, améliorer notre organisation, améliorer l'accueil du justiciable. On a un chantier qui est toujours en cours, mais qui va s'accélérer. Le procureur en dira sans doute un mot sur l'accueil des victimes, qui est quand même un gros sujet pour nous. Alors, la petite spécificité, je le redis, c'est, je parle souvent, j'utilise peu le « je » et souvent le « nous », parce que notre organisation nous y conduit. Nous dirigeons avec le procureur à deux cette juridiction. C'est vraiment une co-direction. C'est comme une spécificité de la justice, parce que dans toute administration, vous avez un directeur ou un chef unique. Ça n'est pas notre cas. C'est le système de la diarchie qui nous fait organiser à deux, diriger la juridiction, ce qui pour moi d'ailleurs est une force, parce que finalement, à deux, et on le voit en ce moment, parce que le procureur, je le dis, il est présent, mais vient d'arriver, il y a quelques mois seulement, et je vois bien que moi étant seul, j'étais un peu limité avant son arrivée, et que les choses s'accélèrent depuis qu'il est là, parce qu'en fait, on arrive aussi à mobiliser plus facilement l'ensemble de la communauté de travail.
Ce binôme existe dans tous les tribunaux.
C'est une organisation judiciaire qui est chaque tribunal, donc les 164 dont je parlais, a un président et un procureur. Les cours d'appel ont aussi un premier président et un procureur général. Donc toutes les juridictions, et c'est aussi vrai, mais la Cour de cassation est un peu spécifique. Toutes les juridictions ont cette organisation dite diarchique.
Alors tout à l'heure, on a évoqué les améliorations que vous souhaitiez apporter pour donner une meilleure image de la justice. Parmi ces modifications, il y a l'ouverture d'un compte LinkedIn du tribunal judiciaire de Pontoise. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée parce que quelquefois, on voudrait communiquer sur vous, mais on peut pas parce qu'il n'y a pas cet accès.
Alors, c'est vrai que moi, je dois dire que je suis, à titre personnel, très prudent sur l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que, vous savez, on a un statut, comme je l'ai dit, je suis magistrat. Et d'ailleurs, j'invite aussi mes collègues souvent à une grande prudence dans l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, on peut facilement être pris à partie, identifié sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même une problématique pour les magistrats. Et donc, évidemment, on a cette réticence. Et ça explique aussi parfois la frustration des gens de la presse et des médias sur ce point. Mais il faut aussi comprendre que il est quand même pas si simple que ça de se mettre, même pour des fois à des raisons simplement de vie personnelle, de respect de la vie privée, de se mettre sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'avec le procureur, on a souhaité avoir quand même un vecteur. Alors bon, on n'a pas choisi X par exemple pour les raisons que vous devinez.
mais on vous critiquera pas
voilà.
Pour ça.
Et donc on a fait un choix d'un réseau social quand même avisé professionnel qui d'ailleurs à l'origine était plutôt une presque bourse à l'emploi, qu'on peut d'ailleurs utiliser un peu comme tel on fait du recrutement. Évidemment, c'est pas notre souhait principal. Mais notre objectif premier, c'est encore une fois, à travers des communications, et on a souhaité d'ailleurs ne pas du tout l'individualiser. Bon, moi j'ai un compte privé sur lequel je ne publie absolument rien, à part republier quelques petites informations. Nous avons fait le choix d'avoir un compte institutionnel, c'est le tribunal, et justement, un peu dans la même démarche qu'aujourd'hui avec vous, de communiquer sur ce qui se fait dans un tribunal, des communications qui sortent aussi de ce qui se fait habituellement. Évidemment, on va pas communiquer sur des affaires, on va pas l'écume des choses, mais plutôt sur le réel, le quotidien de notre juridiction, avec des enjeux, évidemment, d'amélioration du service public de la justice. C'est notre... Et pour nous, ça y contribue, parce qu'en apportant plus d'informations, en faisant mieux connaître la justice, on contribue un peu. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'évidemment, le gros, c'est le fond. Et le fond, c'était notre
ça
début.
Ça reste
améliorer nos délais, améliorer nos organisations. On y veille chaque jour avec le procureur sur la matière pénale. On a institué une commission pénale pour améliorer nos circuits. On travaille beaucoup avec les avocats. Le barreau est très important. C'est un acteur de la justice essentielle. On peut pas faire les choses sans eux. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que symboliquement, je trouve ça très bien qu'on soit tous les trois aujourd'hui. Donc quand on modifie une organisation au sein du tribunal, ça va avoir un impact sur les justiciables et donc sur les avocats. Donc il faut qu'on travaille ensemble. On essaye d'améliorer les choses, les moyens petit à petit progressent dans la justice et à travers ça, on essaye d'améliorer nos organisations pour rendre cette justice rapide qu'elle n'est perçue.
Oui. La meilleure possible, mais bon, encore une fois, il faudrait être vraiment à l'intérieur pour voir qu'il y a vraiment un travail de fond et important qui est fait. Et je déplore personnellement, même si nous sommes un média, je déplore l'image qui est souvent renvoyée de votre institution. Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez souhaité répondre, Monsieur le Président ?
Non, simplement, vous signalez aussi une chose sur le plan local, parce qu'on reste aussi à un niveau local, qu'on va fêter bientôt les 20 ans du Palais de Justice.
Oui.
C'est vraiment une information. Alors, je l'évoque publiquement, même si
en
c'est
janvier,
pas,
en
voilà,
janvier 2026.
C'est pas véritablement, ce sera pas un événement à proprement parler public, puisque on va pas faire un grand, façon dont on n'en veut pas les moyens, mais nous allons profiter de notre audience de rentrée, évidemment, pour faire une célébration un petit peu particulière à cet instant. Mais surtout, je pense qu'on fera aussi, et ça, ce sera ouvert au public, parce que, encore une fois, comme l'a dit Monsieur le procureur, la justice est publique, elle est d'ailleurs rendue au nom du peuple français, et donc les palais sont ouverts. Les jeunes, et nous en accueillons beaucoup, les étudiants, les scolaires, peuvent venir dans les tribunaux, assister à des audiences, sauf les audiences en chambre conseil, mais il y a beaucoup d'audiences publiques, la plupart des audiences sont publiques. Et donc nous ferons... nous avons le projet d'une mini-exposition pour célébrer un peu, alors pas les 20 ans du tribunal, hein, les 20 ans du palais de justice, parce que vous savez que l'ancien tribunal avait, à la suite d'un incendie, a été reconstruit à Pontoise, dans un bâtiment de l'architecte Siriani. Voilà, et donc nous allons fêter les 20 ans en janvier, et donc nous aurons une petite exposition photo à l'occasion de cet événement.
Très bien, ben merci beaucoup et merci pour votre transparence dans vos propos, Monsieur le Président, d'avoir su nous parler de l'équilibre entre tradition judiciaire et puis innovation. Je propose qu'on fasse une courte pause et puis on continue, on enchaîne avec Monsieur le Procureur.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Donc Greg Lebras, procureur du tribunal judiciaire de Pontoise, un petit peu la même question qu'à Monsieur Reynaud, peut-être nous résumer votre trajectoire professionnelle en quelques mots.
Oui, donc un peu comme Monsieur le Président, donc mon parcours est un peu similaire puisque j'ai fait des études de droit à l'issue desquelles j'ai passé le concours de l'École nationale de la magistrature. Alors je veux rassurer, c'était une voie de recrutement classique il y a quelques années, mais les recrutements se diversifient actuellement puisque nous accueillons de plus en plus de personnes qui ont une vie professionnelle antérieure et pas simplement des étudiants qui ont passé un concours, ce qui offre une plus grande diversité du corps des magistrats. Donc après cette formation, J'ai eu deux vies professionnelles dans la magistrature, puisque pendant 10 ans j'ai été juge du siège, juge d'instance dans l'Est de la France, puis juge aux affaires familiales, avant de basculer au parquet depuis 2004, où j'ai donc occupé des fonctions de procureur adjoint dans deux juridictions de l'Ouest de la France, à Nantes et à Angers, avant de devenir procureur au tribunal judiciaire de Laval, puis au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, avant d'arriver donc le 2 juin dernier à Pontoise. Et dans ce parcours entre Laval et Boulogne-sur-Mer, j'ai été pendant 3 ans également avocat général à la Cour d'appel de Versailles, où j'avais la responsabilité du service criminel qui gérait les assises des cours d'appel, donc des cours d'assises plutôt de Versailles et de Nanterre en appel. Donc voilà ce parcours qui, bon, montre que le corps judiciaire est un corps qui permet d'aller du siège au parquet ou du parquet au siège, parce qu'avec Monsieur le Président, je pense que nous sommes des contre-exemples, qui montrent effectivement que on peut passer de l'un à l'autre.
C'est transversal, oui.
Voilà. Ce qui permet donc d'avoir une culture, de comprendre aussi ce qu'est le métier, parce que c'est un métier pas tout à fait différent, mais où il y a un certain nombre de règles qui peuvent varier, d'un juge ou d'un procureur, et d'avoir une approche, peut-être, voilà, sortir d'une approche où on est concentré sur sa simple fonction. Voilà ce parcours avec des juridictions un peu comme Monsieur le Président, où on va d'une juridiction comme du groupe 4 comme l'était pour moi Laval, du groupe 2 comme Boulogne-sur-Mer, une juridiction qui commence à avoir de l'importance et aussi qui est confrontée à des, là pour le coup, à une situation particulière puisque c'était géré au niveau judiciaire la problématique migratoire à destination de la Grande-Bretagne, et puis maintenant arriver dans le Val d'Oise avec ces problématiques également propres.
Oui, on va en parler. Je fais juste une parenthèse. Il faudrait que vous reveniez tous les deux parce que je crois qu'il faut expliquer les différences entre siège et parquet parce que je crois que c'est pas simple. Enfin, en tout cas pour les justiciables, c'est pas forcément simple. Et voilà, si vous voulez revenir, eh bien volontiers. Mais parce que là, l'heure tourne et j'aimerais quand même qu'on aborde les sujets qui vous tiennent à cœur, Monsieur le procureur. Donc vous vouliez parler des violences conjugales. Les chiffres restent alarmants. Quelles actions concrètes ont été mises en place pour mieux protéger les victimes? Parce que on en parlait avant le début de l'émission. Il y a encore eu 4 féminicides récemment.
Alors la juridiction de Pontoise, avant que nous arrivions avec Monsieur le Président, a toujours été une juridiction qui s'est investie dans la lutte contre les violences conjugales. Mmh. Et 2 de nos prédécesseurs portent ces derniers jours donc des projets de réforme. Éric Corbeau, qui était procureur à Pontoise, et Gwenola Jolicoz, présidente, puisqu'ils ont déposé un rapport où ils envisagent de proposer un certain nombre de nouvelles mesures.
Le Val-d'Oise est même pilote, hein, département pilote.
Tout à fait. C'est notamment au sein du Val-d'Oise qu'a été conceptualisé le bracelet anti-rapprochement. Mmh. Donc actuellement, donc au sein de la juridiction, et c'est pas propre au parquet, et c'est ce qui montre que au-delà des différences que vous aviez soulignées entre le siège et le parquet, la juridiction, comme disait le Monsieur le Président, c'est un ensemble global. Il y a une politique de juridiction, de lutte contre les violences conjugales au sein d'un pôle qu'on a qualifié VIF, violence intrafamiliale, qui réunit un certain nombre d'acteurs de la juridiction, des magistrats, des fonctionnaires, des contractuels qui sont mis à disposition de la juridiction pour que on ait une approche transversale au sein de celle-ci et que l'ensemble des services, dès lors qu'ils peuvent avoir connaissance d'une situation, communique sur cette situation et qu'il n'y ait pas un fonctionnement en silo comme ça peut régulièrement exister et une absence de partage d'informations. Ça permet aussi de développer des bonnes pratiques sur l'accueil des victimes, sur la mise en place donc de solutions, notamment soit d'éviction des conjoints violents, soit d'hébergement des victimes, et puis aussi la gestion d'un certain nombre d'outils, soit procédurales comme les ordonnances de protection, soit techniques comme les téléphones grave danger ou les bracelets anti-rapprochement, pour que les personnes qui doivent être éligibles à ce type d'outils puissent être les mieux identifiées et en bénéficier le plus rapidement possible. Donc c'est un travail relativement important. Il faut toujours faire preuve d'innovation et pas s'arrêter à ce qui a été fait jusqu'à présent, parce qu'on voit bien, comme vous le disiez, 4 féminicides la semaine dernière, quasiment le même jour, ce qui montre qu'il y a un problème qui demeure. Mais il faut aller voir ailleurs, il faut se confronter et essayer donc de voir ce qu'on peut toujours mieux faire dans ce domaine. Et les violences conjugales sont une priorité d'action publique pour l'ensemble des juridictions parce que on a commencé un certain nombre d'efforts depuis un certain nombre d'années. Il y a eu cette année 2021 qui a été une année peut-être de bascule à la faveur d'un drame où on a eu un peu plus de moyens dans les juridictions pour prendre en compte ce phénomène. Et on a essayé, les uns et les autres, de mettre en place des bonnes pratiques, une modélisation de l'organisation de la juridiction autour de cette politique de juridiction, parce que je dirais même pas politique pénale, mais politique de juridiction, puisque s'y consacrent les magistrats du parquet, mais aussi les juges des enfants, les juges aux affaires familiales, les juges qui prennent donc des ordonnances de protection et naturellement les juges correctionnels. Et il faut que une information qui est connue de l'un puisse être connue de tous pour qu'on puisse avoir la meilleure appréciation de la situation et trouver la solution judiciaire la plus pertinente.
Merci Monsieur le Procureur pour tous ces détails. Les sujets ne sont pas très drôles entre guillemets, mais vous vouliez aussi parler du trafic et de la criminalité organisée, notamment avec tous ces trafics de stupéfiants. Il y a eu la création d'un parquet national sur la criminalité organisée, sur le modèle du parquet antiterroriste. Votre avis sur ce parquet?
Alors, donc, effectivement, la criminalité organisée, donc, qui est un axe prioritaire d'action des parquets, de la justice, parce qu'on voit bien qu'il y a un développement des trafics de stupéfiants, mais il y a aussi un développement d'autres formes de criminalité organisée, notamment sur le Val d'Oise, nous avons une préoccupation sur la prostitution et le proxénétisme vis-à-vis de la prostitution des mineurs. On voit dans d'autres territoires, le territoire que j'évoquais, où j'étais nommé auparavant, une criminalité organisée au travers donc de réseaux de passeurs de migrants qui sont des réseaux qui particulièrement lucratifs. Donc on voit bien que la criminalité organisée se nourrit d'un gain qui va être soit sur une activité illégale, soit sur le détournement d'une activité légale, parce qu'il y a des trafics de tabac qui se développent également. Donc on voit bien qu'il fallait une action qui soit coordonnée. C'est le principe donc de la création du PNACO, du parquet national de lutte contre la criminalité organisée, qui aura vocation à être en lien aussi avec les juridictions régionales spécialisées, les JIRS, pour essayer de mieux coordonner cette action qui doit être une action nationale contre la criminalité organisée. Mais à la mesure également donc du parquet de Pontoise, j'ai souhaité développer des outils locaux, parce que ce territoire, comme d'autres, doit faire face à des trafics, et c'est pour la raison pour laquelle j'ai décidé de créer avec des magistrats qui composent ce qu'on appelle la section de lutte contre la criminalité organisée du parquet de Pontoise, donc la SECO, une cellule opérationnelle qui s'est réunie le 26 novembre dernier. Cette cellule a vocation à donc réunir les magistrats du parquet avec les services d'enquête pour élaborer donc un diagnostic de la situation locale et une stratégie en termes donc d'investigation, d'identification d'un certain nombre d'auteurs ou de phénomènes, et de voir donc ce qui se passe sur le territoire de façon un peu plus donc précise sur des évolutions. Est-ce qu'un nouveau produit arrive? Parce que de temps en temps, on voit de façon très ponctuelle des drogues de synthèse qui peuvent arriver. Est-ce que c'est ponctuel ou est-ce qu'il y a véritablement un afflux?
C'est institutionnalisé, voilà. Oui.
Et à ce moment-là, prendre la mesure des choses et essayer donc de le traiter judiciairement. Voilà donc l'action en local qui se veut complémentaire de cette action nationale qui est une vraie priorité d'action publique, comme le garde des Sceaux a pu l'énoncer à de nombreuses reprises.
Oui, sachant que le PNACO, le siège est à Paris et que les actions seront menées plutôt à Paris que localement.
Oui, le PNACO, c'est une juridiction qui sera nationale, qui évoquera, qui prendra des dossiers dans l'ensemble des parquets de France, mais qui ne prendra pas tous les dossiers. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une bonne architecture entre peut-être tous les étages d'une criminalité organisée, entre le haut du spectre et l'étage local. Et c'est pour ça que, comme je vous le disais, le PNACO aura son rôle sur des dossiers de haut du spectre de la délinquance, de la criminalité organisée.
Oui, de grande envergure,
voilà.
Oui.
Les juridictions régionales prendront ces dossiers importants au niveau régional. Et les parquets locaux continueront à traiter, mais ils doivent aussi se mettre en mesure de mieux traiter et de mieux comprendre les phénomènes. Parce que si on ne les comprend pas, on les traitera de façon un peu trop mécanique, sans voir les points sur lesquels il faut qu'on soit beaucoup plus précis, avec une logique à la fois donc de traitement judiciaire, mais aussi de confiscation, de saisie et confiscation des biens qui peuvent être la résultante des gains acquis par la criminalité organisée.
Oui, je crois qu'il y a le gel des comptes, enfin, voilà. Il y a plusieurs des stratégies que vous ne pouvez pas faire sans l'aide des élus, probablement.
Alors, le travail avec les élus, il est il est nécessaire. Il est nécessaire parce que nous travaillons sur un même territoire et il faut comprendre son territoire. Donc ça passe par ce dialogue avec ceux qui, à mon sens, le connaissent le mieux. Ce sont les élus de terrain, les maires. C'est pour ça que j'ai engagé depuis mon arrivée, un dialogue. Je suis allé vers l'association donc des maires du Val d'Oise à leur rencontre pour qu'ils m'expliquent la situation qu'ils vivent, pour comprendre toutes les problématiques qui peuvent être diverses, parce que ça peut aller donc de la criminalité organisée qu'on évoquait à l'instant, mais ça peut être aussi tout ce qui touche à l'habitat indigne, qui peut être une plaie dans certaines communes, de problématiques d'urbanisme, de personnes qui ne respectent pas des règles d'urbanisme ou de dépôts de déchets sauvages, et puis de meilleure articulation des relations entre les élus et la justice sur notamment de la prise en compte des violences intrafamiliales. Donc ce travail, je l'ai fait, je participe à l'ensemble des structures de prévention de la délinquance locale, ce qu'on appelle les conseils locaux de prévention de la délinquance, les CLSPD, et en même temps, voilà, j'accueille les élus qui souhaitent venir à ma rencontre parce que je pense que ils ont des choses à me dire. Je me dois aussi de leur expliquer un certain nombre de décisions parce que ils me rapportent des situations. Je dois les traiter et on essaie de les traiter pour le mieux. Et parfois, donc il y a des décisions qui iront dans le sens de leurs attentes. Parfois, je serai obligé de leur dire que je ne pourrai pas satisfaire leur attente. Mais il y a un devoir d'explication de ma part et une meilleure communication dans ce cadre-là.
Le dialogue ne peut qu'améliorer les relations. Tout à fait. C'est sûr. Merci, Monsieur Guérec Lebras, pour votre engagement et puis nous rappeler que la justice est aussi une affaire de terrain. Peut-être une question à tous les trois, peut-être en conclusion, quelle justice imaginez-vous pour demain, Annelise?
Oui, alors effectivement, je vais profiter de cette question pour toucher juste un mot en matière de la justice de demain, en matière de projet de réforme,
oui.
Puisqu'il y a un décret qui est actuellement dans les tuyaux, qui s'appelle le décret Rivage, et qui inquiète énormément la profession d'avocat. Pour en toucher vraiment deux mots, et ça fait partie des points. Alors, ce qui est agréable dans notre profession et dans notre trio, c'est qu'on échange beaucoup, oui. Mais on n'est pas toujours d'accord. Donc, ça va peut-être être un des points sur lesquels
ça fait avancer.
Nous serons en désaccord, mais en tout cas, on continue à discuter. Et c'est ça le plus important, et c'est ce qui permet d'avancer. Mais ce décret Rivage va toucher le droit d'appel, pour dire les choses simplement. Pour vous citer trois exemples de ce qui est pour l'instant prévu, c'est de relever le seuil qui va permettre d'interjeter appel, c'est-à-dire que jusqu'ici on ne pouvait pas interjeter appel en deçà de 5 000 euros, d'un litige en deçà de 5 000 euros, ça va passer à 10 000. Et plus grave encore, on a certains pans de certaines matières qui vont carrément
disparaître
de la possibilité d'appel, par exemple tout ce qui touche les pensions alimentaires, les contributions à l'entretien, à l'éducation, donc quand même un pan assez énorme en matière de justice et d'affaires familiales. On ne pourra plus faire appel, il n'y aura qu'un seul degré de juridiction et éventuellement la cassation, mais la cassation n'est pas un second degré de juridiction. Et on aura aussi une possibilité de se voir déclarer un appel irrecevable par un président de chambre sans aucun débat préalable. Et donc tout ceci nous inquiète énormément, oui. Parce qu'effectivement les avocats sont un peu le lien, c'est nous qui avons accès direct aux justiciables et qui après portons leur voix.
C'est ce qu'on disait en début d'émission.
Voilà, devant la juridiction, et on voit bien que là on va juste couper la parole complètement et ne pas permettre ce second degré de juridiction qui est pourtant indispensable pour une bonne qualité de la justice. Et je pense, à titre personnel, et je pense que toute la profession me rejoint, que ça va être, on parlait de confiance en la justice en début d'émission avec Monsieur le Président, une nouvelle étape contre cette confiance et pour renier un peu plus, parce qu'effectivement, sans double degré de juridiction, sans possibilité d'appel, je pense qu'effectivement, la confiance va se perdre un petit peu plus et que c'est vraiment dommage. Et donc, c'est important de pouvoir débattre et alerter sur le risque vraiment réel de ce décret à venir. On espère qu'il ne passera pas, mais voilà, c'était un petit peu le cri d'alerte.
C'est votre combat du jour, hein, très
exactement.
Bien. Bah, écoutez, j'espère qu'il va être entendu en haut lieu, Annelise. Merci à vous. Monsieur le procureur, un mot sur cet avenir de la justice?
Alors, il y a plusieurs mots qui pourraient être utilisés, mais moi je vais me limiter à la justice pénale que je peux incarner un peu plus. Et je pense que le grand sujet pour cette justice pénale, c'est qu'elle soit à l'heure. Quand je dis à l'heure, c'est la gestion du temps. Le temps de la justice, et notamment le temps de la justice pénale, le temps de l'enquête, le temps de l'attente du jugement, et je pense que j'ai un travail important à faire sur Pontoise dans ce domaine-là, et c'est vrai que, voilà, c'est la gestion du temps, parce que ce temps qui s'allonge, que ce soit en matière délictuelle pour juger les délits, mais aussi en matière criminelle, parce qu'on a une problématique d'audiencement criminel. Il ne peut pas être entendu par tous ceux qui vont être jugés.
Oui, qui sont dans cette attente précisément.
Voilà, ou tous ceux qui attendent le jugement de leur auteur. Donc c'est pour ça que voilà, c'est cette préoccupation qui est importante pour moi et ce souhait de pouvoir réduire le temps si c'était possible.
Merci, monsieur le procureur Guirec Lebras. Monsieur Reynaud, le mot de la fin est pour vous.
Quel privilège.
Sur cet avenir de la justice.
L'enjeu du temps est effectivement essentiel et ça fait peut-être un peu écho au décret Rivage parce que je ne vais pas rentrer dans la polémique avec la bâtonnière.
Je trouve que c'est
un très bon nombre de décrets. Non, mais je comprends aussi les contestations parce que ce sont des choix qui sont politiques en l'occurrence et qui sont guidés par cette question du temps, et en l'occurrence là c'est le temps des procédures devant les cours d'appel, on n'en a pas parlé, mais qui sont presque les juridictions les plus engorgées en France. Non, mais c'est vrai que l'enjeu du temps est essentiel, et pour moi l'enjeu essentiel, encore une fois, c'est que la justice soit au rendez-vous des défis que vous aviez annoncés en préambule de cette émission. Voilà, qu'elle réponde aux enjeux de modernisation, aux enjeux d'accessibilité, aux enjeux de temps judiciaire, que les gens soient jugés dans des délais raisonnables, nous y essayons tous d'y contribuer. Et je crois qu'elle peut faire tout cela en restant humaine, ce qui est notre cœur de métier.
Merci infiniment. On retiendra ce souhait de réinventer peut-être la justice tout en conservant l'humain au cœur du système. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été les invités en direct de l'économie en direct. Et voilà, le studio vous est ouvert. Vous pouvez revenir quand vous voulez avec grand plaisir. Merci Francky pour la technique. Merci à nos auditrices et auditeurs de nous avoir été fidèles comme à chaque émission. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast sur le portail de la radio 98.fr. Mardi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de l'économie en direct qui sera consacré à une autre institution du Val-d'Oise puisqu'il s'agit du SDIS basé à Saint-Brice. Alors à mardi, d'ici là, bonne journée et bon week-end. Mais surtout, restez connectés sur IDFM Radio. Il y a d'autres émissions qu'il faut écouter absolument. À bientôt.
Écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
IDFM Radio, 98FM.
Dans les moments importants de votre vie, vous avez besoin d'un repère solide. Que ce soit pour défendre vos droits, protéger votre famille ou accompagner votre entreprise, un avocat du barreau du Val-d'Oise est à vos côtés. Les avocats du Val-d'Oise, ce sont des professionnels formés, indépendants et à l'écoute. Que vous soyez Argenteuil, Cergy, Sarcelles ou Pontoise, il y a toujours un avocat près de vous. Retrouvez les dates et les lieux de consultation gratuite destinés aux particuliers et aux entreprises sur le site du Barreau du Val-d'Oise. Barreau du Val-d'Oise, l'expertise juridique à votre service.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec Toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure
et Agnès
en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur.
Théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Bonjour, c'est Christelle. Je vous invite à découvrir Les Secrets de la Servante, votre nouvelle émission culture sur IDFM Radio. Quand la salle de spectacle se vide et que le théâtre s'endort, saviez-vous qu'il reste une petite lumière qui brille ? C'est celle de la servante. Elle veille, surveille, jusqu'au prochain réveil. Dans cette émission, nous donnons la parole à celles et ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, font vivre la culture. Artistes, auteurs, techniciens, experts ou acteurs du secteur. Chaque semaine, la servante nous livre ses secrets, éclaire l'actualité et anime les coulisses du spectacle vivant. Alors rendez-vous tous les samedis à 16h sur IDFM Radio.